Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
C'est Anne-Laure. Je suis aujourd'hui au Franc-Port, à côté de Choisy-au-Bac, en compagnie de Clotilde Ney du CPIE, Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement des Pays de l'Oise. Je suis déjà sortie avec elle et je renouvelle cette expérience car elle nous raconte des histoires fabuleuses sur la faune et la flore.
Et les zones humides, je ne sais pas si vous en avez aux abords de vos jardins ou dans les villes où vous vivez, je ne sais pas si vous vivez tous à Choisy, je crois pas. Et les zones humides, c'est des zones qui, comme on l'a dit là juste avant, qui sont super importantes pour les amphibiens surtout et pour les oiseaux. Donc les poissons, ils vont pas pouvoir en bénéficier parce que généralement, il y a beaucoup de zones humides qui sont sur sources. Donc les poissons ne vivent pas dans les sources sous terre. Ils arrivent avec les cours d'eau, mais toutes les zones humides ne sont pas reliées avec des cours d'eau. En revanche, les zones humides, elles vont filtrer l'eau qui sort de la source et qui retourne ensuite au cours d'eau. Donc pour nous, bah c'est important parce qu'on peut boire, des fois, l'eau qui sort des zones humides. Pas ici, dans l'Oise, mais je sais qu'en Corrèze, ou dans les endroits où on est à la limite de la civilisation humaine, on peut boire l'eau qui sort des sources. Ici, il y a beaucoup de... Je viens de Corrèze, je peux me permettre. J'ai vécu là-bas, je peux me permettre de dire ce genre de choses. Et il y a beaucoup d'amphibiens, donc des espèces qui sont protégées, les grenouilles, les tritons, les salamandres, qui vont vivre dans ces zones-là. Elles sont importantes parce qu'elles sont de plus en plus en disparition, on va dire. Les gens les font disparaître parce qu'avant, elles apportaient le palu, donc par le moustique. Donc on en a fait disparaître beaucoup. D'ailleurs, je pense que la grande zone de pinette qu'on va voir après, c'était pour faire disparaître une zone humide. Si je ne veux pas trop m'avancer, généralement, c'est ça. On va passer par une grande zone où il y a plein de pins. Et historiquement, on plantait beaucoup de pins pour assécher les zones humides, pour éviter qu'il y ait trop de moustiques, donc trop de palu. Donc elles sont à préserver. Maintenant, le palu n'existe plus, donc les zones humides, si on les détruit en disant « il y a trop de moustiques », ça ne vaut plus vraiment comme excuse. En revanche, les zones humides, on les détruit maintenant parce qu'on les assèche en extrayant l'eau des sources pour l'agriculture ou alors pour prendre les terrains qui sont occupés par des zones humides pour faire autre chose.
Bientôt, on aura le moustique-tigre, le chikungunya...
Ouais, après le moustique-tigre, on l'a dans le sud de la France. J'ai vécu je vis à Bordeaux à la base et on l'a. Et il n'y a pas beaucoup plus de cas de maladies.
Ce sera toujours un prétexte.
Mais oui, voilà, c'est ça. Ça sera toujours un prétexte pour dire, même, je ne sais pas s'il y en a qui ont des mares chez eux, mais les voisins, ils peuvent se plaindre parce qu'il y a des moustiques ou parce que les grenouilles, elles font du bruit. Ça, on aime bien beaucoup cette excuse aussi, les grenouilles font du bruit.
Et c'est le conservatoire des espèces naturelles des Hauts-de-France, en fait, qui préserve beaucoup les zones humides.
Oui, toutes les assos nature, en fait, beaucoup les zones humides. Okay. On fait en sorte de les mettre un peu sous cloche, si on peut, et, ou alors de les faire connaître. Justement, les marais de Sassy font ça. Les marais de Sassy, ils ont fait des grands cheminements dans les zones humides pour les faire connaître et pour montrer aux gens que bon, bah, voilà, c'est pas non plus la mort, les zones humides. Et ils les entretiennent par pâturage, parce qu'une zone humide comme celle-ci, vous voyez qu'il y a plein d'arbres qui poussent à l'intérieur.
Des chèvres et des moutons.
Ouais, c'est ça, par pâturage. Donc si on ne fait pas pâturer des bêtes dans la zone humide, les bêtes, s'il n'y a pas beaucoup trop de bêtes, la zone humide n'est pas impactée, en fait, ni par les crottes, ni par le piétinement. En revanche, il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon, la zone humide, elle en souffre. Trop de piétinement et trop de déchets organiques. Donc là, si on la laisse comme ça, petit message à la ville de Choisy, si on la laisse comme ça, la zone humide va se refermer, elle va disparaître en dessous, en fait. Il va falloir faire de l'entretien, la couper les arbres. Parce que la forêt, c'est bien, mais avoir une diversité de milieux, c'est mieux. Donc s'il y a une trouée, un peu de lumière, ça va permettre aux plantes des zones humides, là vous voyez les prêles, il y a quelques carex qui poussent, et s'il y a trop d'ombre, ils vont finir par mourir, et la zone humide va mourir avec elle. Mais là, elle a encore un peu de marche, celle-ci, surtout qu'il nous a dit qu'elle était quasiment toujours en eau.
Oui, il y avait une autre petite là, sur la gauche.
Ouais, là-bas aussi, ouais. Ok. Donc celles-ci, elles sont quasiment toujours en eau, donc ouais. Pour l'instant, ça va. Ici, dans l'Oise, je sais pas trop pourquoi il y aurait plein de pins qui seraient plantés comme ça. Peut-être parce que c'est les seuls qui poussent sur du sol aussi sablonneux. Ou alors le sol est sablonné parce qu'avant, il y avait de l'eau et que du coup, ça a été asséché.
Là, les pins, donc, selon toi, c'est pour assécher une zone humide. Ils ont mis là exprès.
Ouais, pour assécher les zones humides. C'était comme ça que c'était utilisé avant, quand il y avait des zones où il y avait beaucoup de palus. Ils plantaient des pins parce que c'est des arbres qui ont besoin d'énormément d'eau pour pousser et qui poussent très vite. Donc du coup, ils pompent beaucoup d'eau très très vite. Et donc ça assèche très rapidement les zones.
Ils vont pas être exploités, les pins, ou ils sont exploités?
Si. Ouais. Tout est exploité. Oui. Ouais, tout est exploité. D'ailleurs, tu sais pas quel âge il a, le peuplement, là. Je pense Il ne devrait pas tarder à arriver à maturation. Oui. Donc normalement l'ONF qui gère et qui a besoin aussi de vivre en tant qu'association, en tant que structure. Ils vont couper les pins pour en faire du bois de
chauffage, de fabrication là de.
Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils en font de ce bois-là ?
Tu peux voir des constructions quand même avec le pin.
En pin, oui. Et donc, les pins vont être coupés pour être utilisés. Et si l'ONF essaye de faire le repeuplement un peu en mode sauvage, entre guillemets, ils vont laisser des vieux arbres en tant que semenciers pour que le peuplement se replante de lui-même. C'est ce qu'ils essayent de favoriser en ce moment. Après, rien ne dit qu'ils vont le faire ici, mais normalement, c'est ce qu'ils essayent de faire.
Le troglodyte mignon.
C'est un tout petit oiseau, tout marron, avec plein de petites rayures, on le reconnaît comme ça. Il a la queue fauve et il chante avec la queue en l'air, juste à côté de nous. Il peut se mettre par exemple sur un bois mort comme ça et chanter en haut du bois mort, donc c'est la continuité de la branche. Parfait.
C'est lui ?
C'est lui qu'on a entendu.
Voilà. La classe, dis donc.
Il chante très fort, malgré sa taille, et quand on fait des relevés naturalistes, et qu'il se met juste à côté de nous, on n'entend que lui en fait, parce que le matin il chante sans s'arrêter.
Et donc il a tout le temps la queue en l'air.
Ouais, mais quand il chante, ouais. Et il ouvre très grand.
Quand il chante pas, c'est.
Si, quand il veut se montrer un peu imposant, d'accord. Il a un peu le même caractère que le rouge-gorge, c'est-à-dire qu'il va chasser les autres autour de lui. Et quand on fait des relevés naturalistes très tôt le matin et qu'on se pose sur un endroit, parce qu'on a des endroits qui sont cartographiés pour se poser, pour écouter les oiseaux, et qu'il est juste à côté, on a l'impression qu'il le fait exprès et il chante le plus fort possible pour qu'on n'entende plus rien autour. Et on a beau prendre des pommes de pin, lui lancer des pommes de pin dessus pour qu'il s'éloigne, il s'en va 2 minutes et il revient et il rechante en hurlant. Donc des fois le troglodyte en a.
Il aime la compagnie, c'est tout. Fini. Ça pèse 3 ou 4 grammes. Hein.
C'est tout petit, vraiment, c'est vraiment tout petit. C'est grand comme ça, c'est assez ridicule. Et celui-là, du coup, on l'a entendu. Elle vit dans les pins, celle-ci, c'est la maison Juppé. Elle vit dans les pins, elle aime beaucoup ce genre de peuplement. Elle va récupérer les insectes qui sont dans les pommes de pin. Et donc là, on l'a entendu tout à l'heure pour la voir. C'est un peu compliqué parce qu'elles sont très discrètes. Elles volent en banc, mais elles restent en hauteur. Et donc on est passé juste à côté d'un petit groupe, mais je les ai pas vus, je les ai juste entendus. Elles font des tout petits chip 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 quand elles se. Comme les mésanges quand elles communiquent entre elles, en fait. Voilà, la maison Juppé.
Pique-pêche.
Ouais, pique-pêche, on peut avoir qu'ils viennent taper dans les troncs, on a le pique-vert, le pique...
Mar.
Mais il est rare le pique-mar, franchement, pour le voir, il faut vraiment avoir de la chance. Donc celui-là, c'est un pique-pêche. Donc, le pique-pêche, comme la citelle, ils vont avoir une particularité, ils vont bien aimer coincer les graines dans un tronc d'arbre et taper dessus pour les ouvrir. Voilà. Est-ce que vous savez comment le pic fait pour ne pas s'exploser le crâne quand il tambourine comme ça sur les arbres? Parce qu'il tambourine fort quand même, surtout sur les arbres creux. Il va tambouriner très fort pour marquer son territoire, donc il faut qu'on l'entende à des kilomètres à la ronde. Est-ce que vous savez comment il fait pour ne pas s'exploser les cellules du crâne?
Non.
Parce que nous, si on se tapait la tête comme ça sur le tronc, au bout d'un moment, on serait complètement débile.
Il a un amortisseur.
Ouais, il a un amortisseur. Donc il a un amortisseur dans le crâne. En fait, les pics, ils ont des langues qui sont très très longues pour aller chercher dans les troncs tous les insectes. Ils ont des langues un peu de fourmilier qui collent. Donc il va aller attraper les insectes et le muscle de la langue, il remonte jusque derrière le cerveau. Et en fait, il va protéger tout le cerveau pour éviter qu'il s'éclate les cellules du crâne, les cellules du cerveau, quand il va tambouriner comme ça sur les arbres. Donc en fait, c'est sa langue qui lui protège le cerveau.
La nature est bien faite.
La nature est bien faite. Là, il y a une lucane cerf-volant qui bouge encore. Je suis désolée, mon pauvre gars, c'est bientôt fini. Donc ça, c'est un mâle, donc avec ses deux grandes pinces comme ça. Et les femelles ont des pinces beaucoup plus petites, mais qui sont plus proches de la tête. Et le rite de passage naturaliste, c'est mon premier maître de stage qui m'a fait faire ça. Il m'a capturé une lucane cerf-volant mâle. Et en fait, les femelles, elles ont une pince qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus proche du corps. Donc il nous dit, mets ton doigt là. Donc on fait pareil, on est surpris avec le mâle. On se dit, bon, voilà, c'est bon, c'est fait, ça pince, ça fait pas mal, mais ça appuie. Et en fait, la femelle, quand on met le doigt, ça met beaucoup plus de temps à réagir, et en fait elle pince pas, elle coupe. Donc du coup, vraiment, on a une toute petite entaille dans le doigt, et elle dit bon bah voilà, maintenant tu sais la différence mâle femelle.
C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais avec Clotilde Ney, animatrice nature du CPIE de l'Oise, en forêt de l'Aigue, à côté de Choisy-au-Bac, au Franc-Port. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.